Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Chant contre Chant, émission mensuelle sur le cinéma réalisée sur Fréquence Protestante par l'association Profil. Cette émission sera présentée par moi-même, Jacques Champeau, et animée par Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour tout le monde.
Par Jean-Michel Zucker. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jacques.
Et par Jean Wilkowski. Bonjour Jean.
Bonjour à tous.
Et puisque nous sommes encore en janvier, il n'est pas trop tard pour le faire, nous présentons tous nos vœux à nos auditeurs que cette année nouvelle vous apporte et nous apporte plein de découvertes et de plaisirs cinématographiques. Alors notre première réunion de l'année sera consacrée comme souvent à des films très différents. Les trois films que nous avons choisis nous emmènent dans des pays et des périodes, vous allez voir, très variées. Du Chili de la fin des années 40 à la France actuelle, en passant par le Danemark des années 70. Nous parlerons donc successivement de Neruda, du Chilien Pablo Larraín, qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, du film Primaire de la Française Hélène Angèle, et de La Communauté du Danois Thomas Vinterberg, qui a été récompensé à Berlin par l'Ours d'Argent de la meilleure actrice pour Trine Dirholm. Alors commençons par Neruda, de Pablo Larraín. Pablo Larraín est un jeune réalisateur chilien, il a 40 ans, qui a déjà 6 longs métrages à son actif. Il est très marqué par l'histoire récente du Chili, auquel il a consacré 3 films passionnants sur la période de la dictature de Pinochet. Le premier, Tony Manero, en 2008, met en scène un minable fan de La Fièvre du Samedi Soir qui rêve d'être John Travolta, mais cela dans un pays étouffé et gangrené par la dictature. Santiago 73 post-mortem en 2010 raconte le coup d'état de Pinochet et la mort d'Allende, mais à travers les yeux d'un obscur fonctionnaire de l'Institut médico-légal. Et enfin, No, en 2012, montre comment un génie du marketing fait tomber le vieux dictateur en réussissant une campagne publicitaire extrêmement efficace pour le non-référendum. Donc 3 films politiques, mais qui montre l'histoire à partir d'un angle de vue très particulier. Alors Marie-Jeanne, est-ce que Pablo Larraín a repris cette approche pour son Neruda ?
Oui, absolument. Alors, quel est le contexte ? Tu en parlais, nous sommes en 1948. Au Sénat, le sénateur Neruda fustige, mais ouvertement et violemment, le gouvernement et sa dérive droitière, et en particulier le président Videla, qui, on s'en souvient, a été élu grâce aux voix de gauche. Alors, celui-ci, sous l'influence des États-Unis, a organisé une chasse aux communistes et demande la destitution de Neruda, qui est membre du parti. Alors, il confie au commissaire Oscar Pelluchonneau le soin de l'arrêter. S'engage alors une traque où chacun va naturellement tirer profit de la situation, mais en particulier Neruda, qui voit l'occasion de devenir le chantre de la liberté, de la défense du petit peuple, tout en confortant d'ailleurs sa gloire littéraire. Alors, je conçois que ce film puisse déstabiliser plus d'un spectateur. Mais si l'on compte avec la virtuosité, l'habileté, le talent de Pablo Larraín, qui jongle non sans aisance avec les genres, les conventions, la créativité, l'inventivité, alors je dois dire qu'on éprouve un plaisir de tous les instants, car ce film est vraiment splendide, très sophistiqué et bouleversant.
Mais en fait, c'est très très loin d'être un biopic.
Oui et non. Alors, ceux qui s'attendent à un biopic à la hollywoodienne, lisse et hagiographique, ceux qui ont une admiration légitime pour ce merveilleux poète seront sans doute déçus. Larraín ne ménage pas le poète qui est adulé du peuple. Il fait même un portrait haut en couleur d'un Neruda, un tantinet cynique, conscient de son aura, soucieux de la préserver d'ailleurs, narcissique, vaniteux, mégalo, roué, arrogant, vous voyez, sybarite, amateur de belles de nuit, jouisseur, aimant la bonne chair, et d'un égoïsme, il faut le dire, absolument insupportable. Alors, d'un Neruda qui n'hésite pas d'ailleurs à se déguiser en prêtre pour aller au bordel ou en cheikh arabe au cours de ses soirées de beuverie.
Oui, on est très loin de la géographie béate, mais pourtant Larraín aime le poète et apprécie l'homme politique, transparaît.
Oui, au-delà de ce tableau, on sent que Larraín laisse percer une réelle admiration et même une certaine tendresse pour cette idole intouchable. Le propos n'est pas de démonter un mythe, de critiquer critiquer l'homme, mais en réalité de modifier la perception que l'on peut en avoir. La poésie de Neruda, d'ailleurs, est présente, prépondérante tout au long du film, pour ponctuer de nouveaux chapitres, notamment le fameux poème 20 du recueil 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. La reine dit lui-même, on a fait un film néroudien plutôt qu'un film sur Neruda.
Oui, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant dans ce film. C'est qu'en fait, la forme du film rejoint le souffle du poète.
Oui, ce film est un exercice d'une très grande virtuosité. Virtuosité d'abord dans la mise en scène. Larine manie les images avec une grande audace maîtrisée. Par exemple, il n'hésite pas à filmer deux scènes en une. C'est astucieux, sophistiqué, complexe et très bien construit, à la condition de se laisser porter évidemment par l'imagination et la créativité cinématographique du réalisateur. Virtuosité également dans le choix et la direction des acteurs. Luis Gnecco, qui joue magnifiquement un Neruda, mais bien planté, assez vulgaire, excentrique, plein de verve, non conventionnel, mais qui aime le luxe bourgeois. Quant au policier, il est incarné par le charismatique Gael Garcia Bernal, qui est obsédé et fasciné par sa proie et qui fait de cette traque une affaire personnelle, mais non, dont les mots, lorsqu'ils sont prononcés en off, sont ceux que lui prête Neruda. Alors on peut se demander, est-ce une création du poète? Ne serait-il que sa part d'ombre? Mais la complication n'est qu'apparente, car on est entraîné par l'immense talent du réalisateur, astucieux, brillant. Vraiment un film qui, décidément, ne manque pas de charme.
Ouais, je vois que tu es enthousiaste. Oui. Jean-Michel, est-ce que tu partages cet enthousiasme?
Je pense que
oui.
Non.
Oui, oui. En partie. Effectivement, ce n'est pas un biopic ni une géographie. Une espèce de road movie, une traque tragico-comique. En fait, l'examen à la loupe d'un fragment rêvé de la vie militante de Neruda... Oui. Au prisme des trois voix off, des deux protagonistes et d'un narrateur. C'est complexe et sophistiqué, comme le dit Marie-Jeanne. Neruda et Peluchonneau, pour moi, c'est Jean Valjean et le policier Javert dans Les Misérables de Victor Hugo. Peu m'importe que le film soit documenté ou pas, puisque c'est l'esprit de révolte et les convictions communistes de Neruda qui sont préservées et magnifiées, son implication politique et l'omniprésence de sa poésie, comme il a été dit. Dans ce film, beaucoup d'humour et de dérision, avec le seul risque de faire descendre Neruda, personnage ambigu et contradictoire, de son piédestal de prix Nobel de littérature, mais son panache à la Cyrano est amplifié par le faire-valoir que représente le triste policier Oscar Peluchonneau, incarné par un Garcia Bernal résolument à contre-emploi. Au total, c'est plutôt une réussite au milieu des films un peu ternes qui sortent actuellement.
Oui, c'est intéressant que tu cites Victor Hugo, parce qu'au fond, c'est un peu le même style de poète, à la fois politique, épique, etc.
Épique, oui.
Jean.
Oui, moi j'ai été moins enthousiaste que vous deux, ou que vous trois même exactement, pour être précis, car effectivement, sur la forme, c'est un très beau film. On voit des paysages du Chili magnifiques, les scènes de neige sont splendides, mais sur le fond, j'ai été mal à l'aise et j'ai trouvé que ce film, finalement, sonnait faux.
Ah, pourquoi ?
Parce qu'on ne sait jamais, si cette histoire est vraie
ou
fausse.
Ah oui,
c'est sûr. Et c'est assez désagréable. En plus, ce personnage de Neruda est spécialement antipathique. Et quant au quant à Peluchonneau, avec
il est complexe plus qu'antipathique.
Il est complexe, mais il est quand même. Moi, je l'ai
non.
pas trop apprécié. Quant à Peluchonneau, à part son nom improbable, mais apparemment, c'est la seule chose de vrai d'ailleurs dans ce personnage de policier. Et même, je me demande si à la limite, il a envie d'attraper Neruda.
Oui, c'est pas clair du tout, ni l'un ni l'autre en fait. On a
ils n'ont pas envie de s'attraper les uns les autres.
Non, il y a une chose qui... Je reprends là parce que tu disais, au fond je ne sais pas ce qui est vrai ou ce qui est faux, etc. Et la question, alors comme dit Marie-Jeanne, on s'en fiche, mais il se trouve que j'ai écouté l'autre jour une émission de la très sérieuse Fabrique de l'Histoire donc sur France Culture, et il y avait donc dans cette émission une historienne. Et ils ont parlé de ce film, et elle disait, mais ce film est très intelligent car il nous amène à penser sur la façon dont on travaille sur l'histoire. Donc tu vois...
Waouh, ça va très loin.
Mais c'est pas complètement faux, parce qu'en fait, c'est sans doute, effectivement, on est sans doute très loin de la vérité historique exacte, mais au fond, on est dans une évocation, et on est dans une évocation, et cette évocation est peut-être plus forte que comment dirais-je, quelque chose qui serait beaucoup plus près des faits. Mais
en tout cas, ça souligne certainement des traits de caractère de Neruda, qui devaient être... pas loin du tout, à mon avis, du personnage un peu, certainement les traits un peu forcés, mais que présente la reine.
Oui, et surtout, pour moi, ce qui est particulièrement passionnant, c'est que Peluchonneau est un personnage de papier qui est une création de Neruda. Oui. C'est Neruda qui crée Peluchonneau et qui le fait... contribuer à sa gloire. Et c'est ça qui est intéressant.
Ouais, mais c'est intéressant, mais c'est gênant. Mais c'est gênant. Ben moi, ça m'a gêné, en tous les cas.
C'est gênant si tu attends, effectivement, une espèce de biographie bien calée, etc. C'est pas gênant si tu te laisses porter par le film comme étant, finalement, une œuvre de fiction, quoi, ce qu'elle est. Et le panache du film est tout à fait, quand il reprend, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une phrase intéressante à un moment, Neruda commence une phrase et je crois que c'est sa femme qui le reprend en disant mais prends donc ta voix de théâtre, poète. Enfin ta voix de poète. Et il reprend effectivement la même phrase avec sa voix de poète,
avec
ça change tout.
Phrase.
Et donc je pense que ça rend assez bien effectivement le côté théâtral du personnage.
Absolument.
Oui, mais moi ça m'a vraiment gêné.
Je voudrais ajouter juste une chose, c'est que Larine prend ici l'occasion de s'interroger sur l'idéologie, et particulièrement l'idéologie communiste. Il y a une scène absolument extraordinaire et importante au cours d'un banquet qui est très fastueux, qui a été donné en son honneur. Il y a une dame très humble, qui militante communiste, qui s'approche et qui lui dit « Mais dis-moi, quand nous aurons gagné, est-ce que c'est toi qui vivras comme nous ou nous qui vivrons comme toi ?» Et là, on sent que Neruda est très perturbé par cette phrase.
Il réfléchit avant de répondre.
Il s'en sort par une pirouette.
Il finit par dire « Mais comme moi, bien sûr, mais en fait, il n'en est pas convaincu du tout. »
Parce que Neruda, c'est quand même un grand bourgeois qui ne sait pas conduire, qui a son chauffeur, qui a ceci. Enfin, comme communiste, on fait mieux quand même.
Oui, mais justement, toutes les avant-gardes sont tenues par les grands bourgeois.
Oui, oui. Bien sûr.
Et cette scène est intéressante parce qu'effectivement, elle creuse un peu plus. Oui. D'ailleurs, peut-être la dernière scène aussi où on le voit, accueilli par Saint-Germain-des-Prés. On peut se dire à quoi sert cette scène. On l'aurait bien terminée.
Mais non, mais il refait sa légende.
Mais il refait sa légende.
Oui, il est là.
Et donc,
la légende. Comme on fait la légende, il y a un certain nombre de communistes français, comme Sartre en particulier, qui sont quand même pas trop sympathiques.
Non, mais on ne juge pas l'homme. Là, on juge le film. Et le film rend bien ça, quoi. Bon, alors, on va passer à tout autre genre. Beaucoup plus quotidien, beaucoup moins épique, et qui nous ramène en France, donc primaire, de Hélène Angèle. Alors Hélène Angèle est une réalisatrice française assez peu connue, je veux dire que je n'avais jamais vu de film d'elle, qui a pourtant réalisé déjà 3 longs métrages, dont le premier sorti en 1999, Peau d'homme, cœur de bête, avait été assez bien reçu puisqu'il a obtenu le Léopard d'or, donc la plus haute récompense, au festival de Locarno cette année-là. C'est un film, semble-t-il, dur, brutal, qui met en scène 3 frères violents. Mais c'est déjà aussi un film sur l'enfance, puisque l'histoire est racontée du point de vue de 2 sœurs de 13 ans et 5 ans. Son second film, Rencontre avec le dragon, qui est sorti en 2003, est une épopée initiatique d'un jeune garçon en quête d'un chevalier légendaire. Et donc, si l'on accepte Propriété interdite, son troisième film, qui est, semble-t-il, un thriller plus banal, tous ces films nous plongent donc dans le monde de l'enfance, monde qu'évoque évidemment son dernier film. Et je dirais, alors là, il n'y a pas de confusion, dès son titre primaire, on est dans l'enfance. Alors Jean, je crois que c'est un film, toi, qui t'a beaucoup plu.
Oui, c'est un film qui m'a plu. Et puis, dans cette période électorale, je vote tout de suite oui à cette primaire-là, qui nous plonge en immersion complète dans la classe de CM2 de Florence, et non, heureusement, dans les bisbilles politiques. Hélène Angèle s'est immergée pendant 2 ans dans les classes de primaire avant de réaliser ce film émouvant et optimiste qui s'attache à décrire l'atmosphère joyeuse de l'école, l'art de transmettre, ainsi que la difficulté pour les enseignants d'appréhender les problèmes sociaux de la France d'aujourd'hui, sans y être eux-mêmes suffisamment aidés. parfaitement naturelle et convaincante, Sarah Forestier est professeure des écoles, appelée, comme on disait avant, institutrice.
Oui, on disait même maîtresse. Hein.
Oui, oui, c'est vrai, on disait même maîtresse. Et d'ailleurs, dans le film, les enfants l'appellent toujours maîtresse, qui est un joli mot d'ailleurs, hein, entre nous. Bon, le film a en fait deux aspects. On voit la classe, soit du point de vue du professeur, soit celui des enfants. Et les deux sont intéressants, car tous jouent à la perfection. Pour la professeure, Hélène Angèle voulait une héroïne traversée de questions morales et secouée d'émotions, qui se prend les pieds dans le tapis et doit malgré tout assurer. Dans cette comédie, où on s'amuse souvent, la réalisatrice dépeint avec finesse les qualités professionnelles de Florence, sa patience et son intelligence quand elle va, par exemple, rechercher un vieux manuel de méthode syllabique pour aider une élève à lire, à apprendre à lire. Ou quand elle ruse pour faire admettre la participation de Charlie, joué par une enfant autiste, à un spectacle de théâtre. Au passage, est signalé le travail délicat des assistantes de vie scolaire qui accompagnent les enfants handicapés dans les classes. Salaires insuffisants, décalage entre travail quotidien et point de vue de l'inspecteur sont également évoqués, mais sans lourdeur.
Alors ça, c'est le point de vue du côté instituteur, mais il y a beaucoup plus, il y a surtout les enfants.
Oui, bien sûr, surtout les enfants. Et il faut insister sur leur formidable énergie vitale. Ils sont tantôt insolents, intelligents, espiègles ou roublards, tantôt fragiles, manquant de confiance et affectueux. C'est l'une des qualités de ce film que d'avoir su les prendre sur le vif. Je cite la réalisatrice. Parfois, je disais moteur et les enfants devaient refaire les prises, comme des comédiens adultes. Parfois, nous filmions les répétitions sans qu'ils le sachent. Parfois, elles improvisaient. C'est dans ce joyeux bazar que la vie a pu être captée. Les adultes s'adaptaient aux enfants.
Et alors, donc, l'institutrice Sarah Forestier, moi, je l'ai trouvée remarquable. Tu partages ce point de vue ?
Ah, absolument. Et c'est une magnifique prestation de Sarah Forestier, une très bonne actrice, qui donne souffle à cet émouvant portrait de femme généreuse, dépassée par ses émotions, meurtrie par son divorce récent, peu taillée pour le monde cynique qui l'entoure. Florence noie son mal-être dans l'amour de son métier, au risque de se faire dévorer. Elle se dévoue totalement aux enfants qui lui sont confiés et qui viennent combler son manque d'amour.
Oui, alors, il y a quand même un personnage qui vient troubler ce discours, et troubler Florence. C'est l'ex-compagnon de la mère de Sacha, un des enfants difficiles de la classe, et ça, c'est peut-être un peu moins réussi.
Ouais, t'as raison, et c'est même le point faible de ce beau film. Hélène Angèle a affadi son propos en faisant apparaître ce personnage inutile, même s'il est très bien joué par Vincent Elbaz. Mais rassurez-vous, ça ne dure pas très longtemps. Et il ne suffit pas à nous gâcher notre plaisir de retourner à l'école, car primaire est un bel hommage à un milieu souvent critiqué et probablement méconnu. De quoi nous réconcilier avec l'éducation nationale.
Ça, c'est un noble objectif. Donc, je crois que c'est effectivement un film inégal, quoi, disons. Il y a des parties très, très réussies,
oui.
D'autres un peu moins. Marie-Jeanne,
tu
es encore sensible au charme de l'école primaire ou,
Non, oui, mais pas du film. Disons, je suis peut-être moins enthousiaste que Jean. Alors, certes, je reconnais, c'est un bel hommage à ce que l'on appelle aujourd'hui les professeurs des écoles. Avant, on parlait d'instituteur,
oui,
c'était
absolument.
Beaucoup plus joli. Instituteur, celui qui instruit. Bon, bref, on assiste sur le métier difficile qu'ils ont, sur le fait que les enfants et les parents deviennent de plus en plus difficiles, avec des salaires qui ne sont pas à la hauteur, etc. C'est un métier... Je dois dire fondamental, parce que c'est un métier de formation élémentaire, si je puis dire, et on s'en rend compte d'ailleurs quand les étudiants arrivent à l'université, s'ils ont été bien formés ou pas, et très jeunes.
Oui, et qui est complexe, et donc je trouve que là, le film rend assez bien justement compte de cette complexité.
Oui, d'autant que c'est un métier souvent un peu méprisé, et donc c'est important que ce film existe, et de plus, je suis d'accord, il est magnifiquement interprété par Sarah Forestier, et ses élèves sont tout à fait attachant, enfin, c'est très, très jouissif.
Et puis disons-le quand même, c'est un film français, il n'y en a pas tant que ça qui soit intéressant.
Ouais, mais en revanche, je n'ai pas été tellement convaincue par la réalisation. J'ai trouvé certains passages surjoués, un peu forcés. Le texte lui-même, d'ailleurs, l'est, est trop bien léché, manque souvent de vérité, de finesse. comme par exemple lors du dialogue avec l'inspecteur d'académie. Ouais. C'était presque impudique. Enfin,
ça ne dure pas longtemps. Hein.
Oui, mais enfin, c'est...
Oui, c'est pas
des passages aussi larmoyants avec cet élève handicapé. Et puis on garde trop l'impression de... On a l'impression qu'elle a voulu tout dire et elle a tout fourré, là, tout le catalogue des difficultés, des joies, des déceptions des enseignants. Alors, sans parler de cet épisode, de cette bleuette, enfin, c'était... C'était inutile. Ça gâchait tout. Alors, malgré la bonne intention de départ, je dois dire que, bon, il y a effectivement un travail sincère, sérieux, en amont, mais j'en suis sortie très peu convaincue.
Oui, très rapidement, moi aussi, je fais chorus avec ce que tu viens de dire, parce que pour moi, ni l'énergie, ni l'enthousiasme, ni la sincérité dont... ne font défaut à ce film éclairé par l'authenticité et l'implication de Sarah Forestier, qui incarne une enseignante vouée à sa mission, comme l'a dit Jean, de protectrice de l'enfance. Ça, c'est le point positif, bien. Mais d'où vient, cependant, que l'intérêt que ressent le spectateur pour une situation, somme toute, tristement fréquente, se met en agacement au fur et à mesure que progresse le film. Alors, peut-être, en raison du parti pris, et je fais écho à ce que disait Marie-Jeanne, d'hystérisation des conflits entre les enfants et les adultes, du caractère conventionnel des relations entre ces derniers, et surtout de l'introduction inutile, ça a été dit, et racoleuse, pseudo-romance entre la maîtresse et le compagnon immature de la mère abandonneuse d'un enfant difficile. Et ça, ça plombe complètement.
Et c'est dommage, parce que je trouve que l'enfant difficile, lui, est bien... Ça, c'est assez intéressant. L'enfant qui, parce qu'il a des problèmes, etc., réagit finalement par la violence. Oui. Ses relations avec la fille même de l'institutrice qui a aussi ses problèmes dans un autre genre, même s'il est plutôt... Ça, j'ai trouvé que c'était assez finement vu. Et c'est effectivement quand on sort vers eux que ça ne va plus.
Il ne faut pas que les 10 dernières minutes plombent le film, ça serait dommage.
Parce que l'enfant est peut-être... Bon, réagir par la violence, effectivement, mais l'attitude des adultes autour de lui et de l'école est quand même très insuffisante. C'est pas du tout comme ça qu'il faut réagir.
C'est pas si simple que ça parce que je pense qu'aujourd'hui...
Je travaille dans un CMP et je peux vous dire que c'est pas du tout comme ça que ça se passe.
C'est pas si simple parce que je pense qu'ils sont... les enseignants sont coincés par des tas de règlements. S'ils n'alertent pas suffisamment, on peut leur reprocher de ne pas avoir alerté. Je pense que ce côté-là est pas si mal vu que ça.
Il y a un côté documentaire qui est
intéressant. On peut pas le laisser s'agiter comme ça.
Mais je pense que la difficulté du film est qu'effectivement qu'il hésite un peu entre un documentaire qui marche assez bien...
Et une fiction.
Y compris du côté de l'institutrice elle-même. Et puis je pense que la réalisatrice a voulu quand même étoffer un peu son film avec des choses autour qui, honnêtement, fonctionne un peu moins bien. Donc voilà, c'est pas... Je pense que c'est un film intéressant parce qu'il peut permettre de discuter, mais c'est vrai qu'il a ses faiblesses aussi.
Il a ses faiblesses. Qui n'en a pas.
Voilà. Donc nous allons faire une petite pause musicale avant de reprendre pour la communauté. Donc nous allons maintenant parler de La Communauté, le dernier film de Thomas Vinterberg. Alors Thomas Vinterberg, c'est un réalisateur danois qui est né en 1969 et qui a connu vraiment la gloire, la célébrité à moins de 30 ans avec son deuxième film Festen, qui fut unanimement salué par la critique et récompensé à Cannes du prix du jury en 1998. Donc prix du jury à moins de 30 ans, c'est assez rare et ça mérite d'être souligné. Et cette histoire d'une famille qui sort ses secrets et se décompose au cours d'un dîner est un film fort qui reste dans la mémoire des cinéphiles. Malheureusement, depuis, Vinterberg a plutôt déçu. Ces deux films suivants furent des échecs à la fois critiques et commerciaux. Et même La Chasse, qui a été récompensée à Cannes en 2012, à la fois du prix du jury œcuménique et puis du prix d'interprétation masculine pour Mads Mikkelsen, n'a pas fait l'unanimité. Bon, personnellement, moi, c'est un film que j'avais assez aimé, mais d'autres, dont je crois tu fais partie, Jean-Michel, étaient plus réservés. Et puis, donc, l'adaptation qu'a fait Vinterberg en 2015 du roman de Thomas Hardy, Loin de la foule déchaînée, ne fut pas non plus complètement convaincante. Alors, Jean-Michel, est-ce que la communauté marque le retour de Thomas Vinterberg ?
Un certain retour, mais je ne suis pas sûr que ce soit un bon retour. Héritier de la figure tutélaire mais écrasante du grand Dreyer, Lars von Trier et Thomas Vinterberg ont fait, en fondant bruyamment à l'époque le mouvement Dogme 95, un vœu de chasteté esthétique un peu rigide. 18 ans après le mythique Festen, qu'en reste-t-il dans ce film qui est entre comédie de boulevard et mélodrame et inspiré de la longue expérience communautaire du réalisateur dans son enfance? Eric, professeur d'architecture à l'université, est le mari d'Anna, présentatrice du journal télévisé. Ils vivent heureux, comme peuvent vivre les Danois, avec leur fille adolescente, Freya. Oui, les Danois sont le peuple le plus heureux du monde. Mais que vont-ils faire de la vaste demeure avec jardin des parents disparus d'Éric ? Éric a peur de s'y trouver perdu, mais Anna insiste pour qu'il ne la vende pas et suggère d'inviter des proches, ou moins proches, à y vivre et à en partager les frais. Éric va tomber inévitablement sous le charme d'une belle étudiante blonde de 24 ans, Emma, qui bouleverse l'équilibre collectif.
Oui, donc le réalisateur en fait va couvrir deux lièvres à la fois, la viabilité de la vie en communauté, mais aussi la crise d'un couple.
Voilà, et de fait, l'ambition de traiter les deux sujets aboutit à un résultat qui ne convainc pas pleinement. On aurait espéré voir se déployer les enjeux du modèle théorique, le rêve de bonheur communautaire et l'illusion des utopies collectives des années 70, affrontés à la vraie vie affective et intellectuelle des participants. Malheureusement, rapidement abandonnée au profit des tensions dans le couple d'Éric et d'Anna, la politique de la communauté ne devient jamais le sujet du film. Et la réalisation un peu brouillonne et inutilement crue paraît bien superficielle et dérisoire, marquée par le vote pour l'admission des nouveaux ou l'acquisition des appareils ménagers, à grand renfort de crise et d'éclat, se passant souvent à table comme dans Festen. Y a-t-il alors du nouveau dans le traitement du démon de midi ? Pas vraiment. Mais la meilleure partie du film est cependant le portrait délicat d'une femme de 45 ans, soudain seule au milieu du groupe et qui a, inconsciemment, par défi, provoqué sa propre perte puisque c'est elle qui a insisté pour que la communauté accepte l'inclusion d'Emma.
Oui, oui, c'est certainement la partie la plus intéressante du film. Et d'ailleurs, le rôle d'Anna a valu, comme je le disais, à Trindy Holm un prix d'interprétation bien mérité à Berlin l'an passé. Mais que dire des autres personnages ?
Eh bien, ils sont, en dehors de la lumineuse et douloureuse Freya, la fille, bouleversée par le drame de sa mère, vraiment pas très attachant ni consistant, et le protagoniste masculin, Éric, qui prétend vivre avec deux femmes, est un être veule, méprisable et très antipathique. Il y a aussi parfaitement...
Bon, mais antipathique.
Tu es quand même très dur avec les hommes qui trompent leurs femmes.
Vous ne laissez même pas seulement ça, mais il y a aussi la cerise sur le gâteau, parfaitement insupportable et surlignant le mélo, un suspense autour de la mort d'un petit garçon qui vraiment est totalement déplacé.
Alors là, je te suis.
C'est horrible,
et insupportable.
Mais c'était lourd.
Alors, la caméra au point, les gros plans, les coups de théâtre, pour moi, accentuent le caractère hystérique d'une mise en scène banale et trop simpliste, beaucoup trop simpliste pour faire penser, ne serait-ce que de loin, à Bergman ou même à Cassavetes.
Ouais, je suis un tout petit peu moins d'accord. Je pense qu'il y a des moments où on s'approche de Cassavetes. avec quand on finit malade. Il y a des moments où ça m'a vraiment fait penser. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres où bon, c'est encore un film un peu inégal.
C'est un peu inégal. C'est pas déplaisant quand même, où on s'ennuie pas vraiment.
Non.
Et puis j'ai trouvé qu'il y avait une bonne dose d'humour, d'humour typique des cinéastes du Nord, des cinéastes hollandais ou belges. Il y a une espèce au second degré, c'est humour à la bière. Oui, humour à la bière, un peu lourdingue, mais pas trop désagréable. Et puis l'évocation de l'expérience des communautés post-68arde est assez sympa aussi. Parce que ça a été un mythe quand même à l'époque, et il est assez bien rendu par contre.
Il est assez bien rendu, mais c'est vrai qu'on en attend un petit peu plus, parce que là, il n'y a pas beaucoup de dramaturgie. Il y a des événements qui succèdent, mais il n'y a pas vraiment de dramaturgie sur la communauté elle-même.
Il manque à ce film quelque chose, pas grand-chose pour que ça soit sympa.
Oui, je suis assez d'accord.
Mais il manque quelque chose, et c'est pas trop bien quoi.
Oui. Marie-Jeanne.
Je partage tout à fait l'avis de Jean-Michel. Et on a l'impression que cet auteur court toujours après son succès de Festen sans jamais le rattraper. Hein. Alors, bien sûr, tout n'est pas négatif. Il y a la patte d'un réalisateur et d'un réalisateur chevronné qui connaît bien son métier. Par ailleurs, je trouve que la brochette des personnages, avec sa part d'insolite, qui sont extravagants, qui ont des scènes complètement déjantées, ou très joyeuses. Bon,
L'examen d'entrée, par exemple, c'est réjouissant, c'est festif, c'est réjouissant.
Et il y a aussi, il faut dire, des scènes d'une grande sensualité dans l'amour entre justement Eric et sa femme, et puis c'est remarquablement joué. Anna, Freja, est une petite adolescente merveilleuse.
Les scènes de sexe sont certes courtes, mais banales et très crues, et sans grand intérêt.
Je ne te suis pas.
Je pense qu'elles sont assez cohérentes avec le film. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. De même que le mari, le mari, c'est pas effectivement, il n'est pas terrible, mais après tout, non, mais je veux dire...
Sinon,
il n'y aurait pas de film. Sinon, il n'y aurait pas de film. Je veux dire, il est faible.
Ça aurait peut-être été mieux.
Il est faible comme un mari entre, qui hésite entre deux trucs. Quoi. Ouais, et puis qui voudrait d'avoir le beurre et l'argent du beurre.
Non, mais je suis d'accord aussi quand tu dis que, en fait, il y a deux films en un. Et quand il commence cette histoire de la crise de ce couple avec un adultère très bourgeois, vraiment le professeur d'université, la cinquantaine avec l'étudiante Jeannette.
Woody Allen faisait mieux.
Mais c'est d'une originalité torride, il faut le dire. Donc, c'est deux films en un. Alors,
je trouve que c'est assez. Ça, pour moi, c'est plutôt un plus. Parce qu'on est dans un essai original de communauté. C'est-à-dire que ces gens-là veulent sortir de leur bourgeoisie. Et d'ailleurs, un peu, c'est ce qui les fait démarrer, cette idée. C'est-à-dire, on est dans la routine, on est dans une routine bourgeoise. On va au fond en changer dans cette communauté. Oui. Et paf, il retombe dans ce petit adultère tout à fait bourgeois. C'est assez intéressant ce contraste.
Oui, mais à ce moment-là, Wittenberg lâche son film. On ne parle plus de la communauté. Voilà. On se concentre sur cette histoire d'amour. Et alors que.
C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, c'est sûr.
Justement, il aurait été intéressant de voir justement l'évolution d'une communauté. Est-ce que l'homme peut vivre en communauté ou pas? Enfin, creuser un peu ce sujet qui était son film. Et là, il s'est perdu dans cette histoire d'amour banale.
Oui, alors qu'il a voulu, et malheureusement la piste qu'il a suivie pour l'autre, l'aspect de la communauté qui est ce petit enfant malade,
c'est triste,
surajouté, et ne colle pas du tout avec le reste.
C'est vrai que
je pense que c'est ça le problème du film.
C'est très choquant.
Il n'a pas réussi à combiner finalement ces deux sujets. Parce que au départ, c'était pas idiot finalement, cette idée de comment vivre, c'est une situation difficile au fond dans une communauté. Est-ce que c'est un plus, est-ce que c'est un moins? L'idée n'est pas mauvaise. La mayonnaise prend pas complètement.
Même
si encore une fois, je trouve que le personnage d'Anna est remarquable et remarquablement joué.
Et qu'il y a
des scènes quand même très émouvantes à certains moments. Donc, faut pas être trop négatif. Il y a des belles choses dans le film.
Par exemple, contrôle d'Anna, la perte de contrôle d'Anna devant le désastre de son couple fait beaucoup penser à une femme. Quel était ce film de Cazavet ? Une femme sous influence.
Voilà,
ça fait beaucoup penser à ça.
Ah, oui, non, il a certainement d'ailleurs eu lieu avoir quelques réminiscences.
Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Absolument, ni le petit Danois avec
le petit Danois avec le gros avec la petite sirène.
Après cette conclusion poétique, nous avons le temps de traiter quelques coups de cœur. Donc, je crois que Marie-Jeanne, tu voulais nous parler d'un sac de billes.
Oui,
j'ai
choisi de vous parler justement de ce sac de billes qui a été tiré d'un roman de Joseph Joffaut qui est paru, on s'en souvient, en 73 et dans lequel il raconte un épisode de son enfance avec son frère durant l'occupation allemande. Alors, contre l'oubli, contre l'antisémitisme rampant qui semble vouloir renaître aujourd'hui, contre les négationnismes de tout poil, ce film est une œuvre nécessaire.
Mais c'est un remake.
Peut-être, mais écoute, il n'est jamais inutile de rappeler certaines choses. Alors, dans une mise en scène classique, je le conçois, mais efficace, Christian Duguay nous montre comment des familles juives se sont retrouvées dispersées malgré elles, et surtout comment le courage des familles juives, notamment dans cette famille, a été pour certains un acte d'héroïsme. Ces parents de Maurice et Joseph Joffaut qui n'ont pas hésité à laisser partir leurs deux adolescents de 11 et 14 ans seuls en zone libre avec juste un peu d'argent et des recommandations est assez remarquable. Alors nous suivons le périple de ces deux jeunes garçons attachants dans des paysages magnifiques et puis je dois dire que malgré la cruauté de la situation le parti pris du réalisateur n'a pas été de nous donner un film noir et désespérant. Il y a de la lumière, il y a des moments de bonheur intense, il y a l'innocence des enfants avec leur naïveté touchante et puis surtout une naïveté qu'ils apprendront à taire. Et il y a aussi des êtres courageux qui donnent espoir, toute la chaîne de ceux qui se sont mobilisés, même moyennant finances, pour les aider. Il y a également ces prêtres qui les ont cachés au péril de leur vie, ces directeurs de centre qui ont veillé sur eux. Enfin, bref, ce film est à la fois triste et noir, mais en même temps lumineux. Certains seraient tentés de qualifier ce film de tire-larme, tant les moments d'émotion sont intenses, mais comment l'éviter sur un sujet pareil ? Et personnellement, d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit une critique. Alors, simplement un bémol, la musique aurait pu être beaucoup moins présente. Et beaucoup moins présente.
Alors, nous restons dans l'histoire, avec le divan de Staline.
Oui, divan Staline, film de Fanny Ardant, film français de Fanny Ardant. Donc nous sommes en 1950, soit 3 ans avant sa mort, et on retrouve Yosef Vissarionovitch Djougachvili, dit le petit père des peuples, le camarade généralissime Staline au sommet de sa gloire. Fanny Ardant va nous faire la démonstration de ce que peut être un pouvoir absolu qui frise la folie. D'abord il y a l'ambiance, une forêt sombre enveloppée d'un brouillard épais, un château inquiétant rempli de gardes armés où tout le monde a peur. Arrive l'ogre qui dit « Tout finit par se corrompre, même ce qui a été purgé et récuré en profondeur. » Il va en faire la démonstration en condamnant à mort les espions saboteurs sionistes de l'usine Ziz et en faisant déporter en Sibérie le capitaine qui lui a projeté un western et l'ange bleu. Car nul ne doit être témoin des faiblesses du tyran. Le climat est à la fois de ferveur religieuse et de crainte mortelle de toutes les personnes qui gravitent autour de Staline. C'est très bien décrit et filmé par la réalisatrice. Face au vieux dictateur, il y a surtout Lydia, sa maîtresse depuis 27 ans, à qui il va faire jouer le rôle de Freud, le grand charlatan viennois, comme Staline l'appelle. Pour cela, il a fait installer un divan identique à celui du célèbre psychanalyste à Londres. Tout est en place pour un cruel jeu du chat et de la souris, où bien sûr, la souris n'a aucune chance. Un autre jeu va se faire entre Staline et Danilov, un jeune peintre ambitieux et sans scrupules. Et là aussi, la lutte sera sévère et passionnante. Gérard Depardieu, qui joue le rôle de Staline, est une montagne qui se déplace, imposant et magnifique. Un rôle taillé pour lui et pour sa mégalomanie. Emmanuel Seigné, dans le personnage de Lydia, doit faire preuve d'intelligence, en plus de sa beauté, pour essayer de contrer le monstre en face d'elle. Donc, finalement, un spectacle pervers et fascinant qui vous tient en haleine dès les premières minutes.
Oh. Jean-Michel, tu voulais nous parler de Entre les frontières, David Mograbi.
Oui, toujours dans l'histoire.
dans
l'histoire actuelle. Il s'agit d'un documentaire de Avi Mograbi, qui est un grand réalisateur israélien et qui, depuis son premier long métrage, un peu long de titre, « Comment j'ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon
tout un programme.
Porte un œil critique sur la politique de son pays. Et ce dernier film traite de la situation tragique des réfugiés soudanais et érythréens en Israël qui sont, au mépris de la Convention de Genève, parqués dans le camp de Holot, dans le désert du Negev. Il est interpellé par le rejet de ces réfugiés, par ceux-là même dont les parents ou les grands-parents avaient été rejetés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il va chercher comment s'adresser à un public israélien si peu empathique avec eux. Et il prend alors contact avec le metteur en scène Shen Alon, qui lui suggère de partir des principes du théâtre de l'opprimé, fondé par le Brésilien Augusto Boal dans les années 70, et destiné à donner un petit peu de conscience politique et sociale à ses compatriotes. Et le metteur en scène et le cinéaste, ensemble, vont questionner le statut de réfugié en proposant aux détenus de ce camp de Holot des ateliers de théâtre dans le décor dépouillé d'un local désaffecté pour les inviter à rejouer les scènes fondatrices de leur destin qui structurent leur parcours d'exilés. Une fois établis, ces ateliers se sont enrichis selon le principe du jeu de rôle de la participation d'Israéliens pour susciter un combat partagé. Aujourd'hui encore, la pièce issue des ateliers redonne confiance aux demandeurs d'asile et interroge le spectateur ainsi. Le théâtre et le cinéma peuvent-ils permettre aux hommes de retrouver la dimension universelle de la fraternité ?
Oh, un beau sujet. Pour finir, je voudrais vous parler de Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan. Nous n'avions pas pu en parler lors de notre émission de décembre et je trouve que c'est dommage car c'est à mon avis un des meilleurs films qui soit sorti ces derniers mois. Le film débute dans les rues enneigées de Boston où un homme taiseux, Lee Chandler, dégage les entrées d'un immeuble dont il a la charge comme homme à tout faire. Ce travail ne semble guère le passionner, mais il n'en sort que pour se saouler et faire le coup de poing au bar voisin. Cette routine morbide va être interrompue par la mort brutale de son frère et qui l'oblige à revenir à la petite bourgade côtière, tout proche de Boston, où il a passé toute sa vie, jusqu'à ce drame affreux qui l'a fait fuir à Boston et que nous découvrons peu à peu. Il voudrait repartir tout de suite, bien sûr, ne supportant pas de vivre sur des lieux qui lui rappellent trop le drame qu'il a vécu, mais on lui confie la garde de son neveu, un adolescent perturbé par la mort de son père et qui est aussi soupaulé que son oncle. Alors le film va nous montrer comment les deux vont s'apprivoiser peu à peu et donc Lee, le héros, finira à la fin du film par repartir à Boston, pas vraiment apaisé, mais en tout cas beaucoup plus ouvert aux autres. Cette trame peut paraître assez convenue, mais le film est vraiment original. Les sentiments des protagonistes sont filmés avec une grande finesse. Et Casey Affleck, qui joue Lee, est absolument remarquable dans ce personnage muré dans son silence par une catastrophe trop lourde pour lui et par un sentiment de culpabilité qui l'étouffe. Le tout est filmé dans les merveilleux paysages de la Nouvelle-Angleterre. C'est un film rare que je vous recommande vivement d'aller voir. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il se joue encore dans de nombreux cinémas en fait en région parisienne. Voilà, nous sommes à la bout de notre émission. Je crois qu'il est venu le temps de rendre l'antenne. Merci à Marie-Jeanne, Jean et Jean-Michel qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à qui nous disons à bientôt. Chant contre chant est programmé tous les quatrièmes mardis du mois, de 13h15 à 14h. Nous vous donnons donc rendez-vous le mardi 21 février.